Bonjour à tous, merci d'être avec nous à l'écoute de Radio Courtoisie. Vous êtes des adultes, alors je vous épargnerai les conseils redondants sur la manière de vous protéger de la chaleur. Mon souhait, très égoïste, c'est que vous soyez bien installés en tout cas pour rester avec nous et profiter de ce que nous avons préparé à votre attention pour cette dernière émission de la saison. Récemment, un auditeur m'a dit qu'il nous écoutait en faisant du vélo d'appartement. Ça semble pas mal, les mollets et le cerveau sollicités en même temps. Mais pas aujourd'hui. Je conseille plutôt le stock de boissons fraîches et le brumisateur. Alors imaginons que certains d'entre vous écoutent pour la première fois l'émission « Les neiges du Kilimandjaro ». Mais que signifie ce titre? Un programme sur l'alpinisme, sur l'Afrique? Non, que nenni. Écoutez plutôt.
Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude.
Cette phrase, je l'adore, elle est un exergue de la nouvelle de Hemingway, qui porte ce titre, Les neiges du Kilimandjaro, et elle est très claire. Que faisons-nous quand nous tentons quelque chose d'inouï, physiquement, ou spirituellement, ou moralement, ou techniquement? Pourquoi nous dépassons-nous? Pourquoi tentons-nous au péril de notre propre survie mentale ou physique des choses un peu inouïes, ce qui nous rend grands? C'est une vraie question, et c'est la première question que je pose toujours à nos invités. Hugues de Montalembert, que je vous présente dans un instant, je vous pose tout de suite la question là. Quel serait, Hugues, votre sommet, celui dont vous rêveriez dans tous les sens du terme?
C'est très curieux, c'est une question que je ne me suis jamais posée, et je crois qu'il n'y a pas de place dans la manière dont je fonctionne pour ce genre de questions. J'ai toujours trouvé que la vie me mettait des challenges, comme on dit, je ne sais pas comment on dit ça.
Un défi,
oui, c'est ça. Un défi que je n'aurais pas inventé et qui était en soi tellement surprenant que je n'ai pas besoin de chercher quoi que ce soit.
Ça vient à vous, en quelque sorte.
À propos du Kilimandjaro, j'ai été au pied du Kilimandjaro. C'était un choc absolument extraordinaire. Et on a trouvé un léopard, mais on a trouvé aussi des choses extraordinaires. On a trouvé des traces de pas qui ont des milliers d'années dans les cendres, presque vers le sommet, d'un enfant et d'un père ou de sa mère qui fuit probablement une éruption, quelque chose comme ça.
Ah, vous la prenez, donc peut-être pas loin du léopard.
Oui.
Pas très étonnant.
Donc non seulement les léopards, là on se demande pourquoi, mais pourquoi il y a des milliers d'années, ils allaient au sommet de pratiquement du Kilimandjaro.
C'est vrai, c'est
une question. Et si j'ai un regret, vous me disiez regret, oui, j'ai le regret de ne pas avoir grimpé le Kilimandjaro.
Vous savez qu'il y a un alpiniste du début du siècle dernier qui ont demandé pourquoi voulez-vous faire ces choses-là, grimper l'Everest, l'Annapurna. Il avait répondu parce qu'elles sont là. C'est pas mal comme réponse.
Alors, il y a une autre réponse, c'est qu'on a envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté.
Il y a ça aussi. Alors, vous êtes un artiste complet. Vous étiez peintre, réalisateur, photographe, vous êtes devenu écrivain. Parce que votre parcours a subi une inflexion définitive qui vous a changé en profondeur. On va l'aborder dans un instant, mais auparavant, j'aimerais que vous nous disiez qui vous étiez en 78, et on découvrira dans un extrait de film ce qui s'est passé. Qui étiez-vous jusqu'en 78?
En 78, j'étais passionné par le cinéma, et je faisais des documentaires. Je venais de finir portrait d'un pays africain, qui était le Dahomey, qui est devenu le Bénin. Mmh. Et j'ai passé un an et demi, au moins, à filmer au Bénin, donc au Dahomey, la religion et le pouvoir traditionnel. Et puis, il y avait une autre équipe qui s'occupait de l'agriculture, enfin, d'autres sujets. On était une équipe.
Vous étiez aussi un photographe, vous étiez aussi un peintre.
Photographe, oui, mais ça, c'est circonstancié parce que j'étais au Vietnam pendant la guerre et que j'ai fait des articles en prenant des photos, oui.
Et la peinture?
Et la peinture, j'ai toujours peint, depuis l'âge de 8-10 ans, je crois.
Alors, sur ce qui vous est arrivé, quelqu'un, Gary Tran, un jeune Britannique, je crois.
Gary Tran,
pardonnez-moi, a réalisé en 2005 un film absolument incroyable que j'ai découvert sur YouTube grâce à vous, qui s'appelle Black Sun, et qui, de manière très précise, en ne cachant rien, dévoile ce qui est devenu votre vie depuis l'événement qui va être expliqué maintenant.
Vous vivez dans une ville comme New York, vous lisez les journaux, vous regardez la télévision et vous pensez « À moi, ça n'arrivera jamais. » Ça m'est arrivé un soir. En revenant chez moi, près de Washington Square, j'ai été attaqué. part des gens qui, je suppose, cherchaient de l'argent pour acheter de la drogue. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas d'argent dans la maison, tout a basculé. C'est devenu sadique. Il s'agissait plus d'argent, mais de s'amuser, si je peux dire. Ils étaient deux. Un costaud et un malingre. Moins fort. J'ai attaqué le costaud avec un tisonnier. Il y avait une cheminée dans cette pièce. Je l'ai attaqué avec un tisonnier. Je sentais qu'il était dangereux. Il avait un couteau. Et je ne faisais aucune attention au petit malingre. En fait, le petit malingre, il avait une arme dans sa poche. Un décapant à peinture. Ce n'est pas un acide, c'est une base. Si vous lavez une base avec de l'eau, ça ne part pas. Ça continue à creuser. Pendant que je me battais avec le costaud, le petit malingre, il m'a jeté ça à la figure, le décapant. J'ai tout de suite compris que quelque chose de très grave était arrivé. Je pensais qu'ils allaient me tuer. Alors je me suis mis à crier. Ça leur a fait peur. Je criais tellement fort, ils ont foutu le camp. Je me suis précipité sous la douche, mais je voyais ma vue qui foutait le camp, qui partait, diminuait. Je ne savais pas le numéro de téléphone de la police, alors j'ai appelé un ami. Je lui ai dit « Appelle la police, j'ai été attaqué ». Mais déjà, pour composer le numéro, je n'arrivais plus à discerner les touches. Ça devenait déjà difficile. La police est arrivée peut-être une demi-heure plus tard. Ils m'ont emmené à la salle d'urgence de l'hôpital le plus proche. Ils ont essayé là de laver mon visage, mais comme c'était une base, ils ne pouvaient rien faire. Je voyais que je perdais de plus en plus ma vision. J'ai demandé au docteur, « Dites-moi la vérité, c'est grave ou pas ?» Il m'a dit, « C'est très grave. » J'ai compris alors que, probablement, je perdrais la vue. Au matin, j'étais complètement aveugle.
Voilà, c'est l'histoire de Hugues de Montalembert que vous racontez vous-même dans ce film absolument incroyable, touchant, merveilleux, intéressant à tous égards, Black Sun. J'éprouve presque du scrupule à vous replonger dans cette histoire. J'espère que ce n'est pas inconvenant pour vous.
Oh, inconvenant, certainement pas. C'est ma vie.
Je comprends. Est-ce que je peux vous demander si vous avez de ce moment un souvenir encore vivace et très précis? Vous revoyez les visages de ces gens? Vous vous souvenez d'eux à tout jamais?
Tout. Au millimètre.
C'est vrai? Ont-ils des détails anecdotiques? Est-ce que ces gens ont été arrêtés? Est-ce que ces gens ont été punis?
Non, on ne sait pas. Ce que je pense, c'est qu'ils sont morts. Parce que ces gens étaient vraiment des drogués, féroces. Et le genre de vie qu'on mène à New York, je le connais très bien, puisque en 71, j'ai fait un film qui s'appelle « Les fraises sauvages », pris de Bergman, sur l'héroïne à New York. Et un des garçons que j'avais pris, qui était drogué, c'est un documentaire, un jour n'a plus apparu. Et la police, je cherchais partout, je suis allé finalement à la police, et la police m'a dit « Mais est-ce que vous êtes allé à la morgue ?» Et je suis arrivé à la morgue, et là j'ai vu ce qui se passait. C'est-à-dire que pratiquement toutes les 20 minutes, arrivait une victime de la drogue. La vie que mènent ces gens, soit qu'ils la prennent, soit qu'ils dealent, est extrêmement dangereuse. Donc je pense que ces gens sont morts.
Vous n'avez jamais ressenti de désir de vengeance ou de justice?
Alors, pas du tout, parce que je me suis dit, ils m'ont pris la vue, ils ne me prendront pas la vie. Et si ma vie devient un désir de vengeance, ils m'ont volé ma vie.
C'est vrai, je comprends. Dans les premiers temps, les tout premiers jours, je crois, vous n'avez pas souhaité prévenir votre famille, et on l'a fait pour vous, mais vous ne le vouliez pas. Vous ne vouliez pas que votre mère vous voie dans cet état au début.
Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec la pudeur. C'est que vous avez besoin de toutes vos forces et que vous n'aurez pas la force de consoler votre mère.
Bien sûr. Les réactions de votre entourage, quelles ont-elles été quand les choses ont été acquises?
Vu mon caractère, ça n'a pas été exactement ce qu'on peut penser. Parce que quand je suis revenu à Paris, j'ai vu que la pièce était pleine de pitié, bien sûr, et ça m'a agacé. Donc j'ai dit, le drame, c'est pas du tout que j'ai perdu la vue. Le drame, c'était que j'étais le seul qui voyait quelque chose. Alors évidemment, ils ont dit, il a perdu la vue, mais il n'a pas changé. Et j'ai dit, vous ne me croyez pas, dites-moi quel est le motif de la tapisserie du grand salon de la maison où nous sommes nés. C'est en Mayenne, vous dites que vous connaissez la Mayenne. Or, c'est pas un timbre-poste. Ça fait 4 mètres sur 5. Personne ne le savait.
Est-ce qu'il y a eu une période...
Alors, ça a coupé. Bon, après ça, j'ai ri, etc. Mais ça a coupé, effectivement, cette pitié automatique qui est quand même... ça vous fait perdre du temps, c'est tout.
Est-ce qu'il y a eu une période, peu de temps après ce drame, où votre énergie était tendue vers le fait de dire « Je vais m'en sortir, ça va, je vais retrouver la vue » ou tout de suite, vous avez compris que c'était définitif?
Ah oui, non seulement j'ai compris, je l'ai accepté, et je me suis dit, toute la question est de ne pas pourrir.
Bien sûr.
Voilà, et de ne pas devenir quelqu'un dont la vie sera organisée par des associations très très efficaces, et qui, j'ai plein de respect pour elles, et de devenir un assisté, et de vivre une petite vie confortable, assisté, etc. Non ? Bon. C'était ça, et c'est ce que j'appelle le pourrissement. Et c'est là, bon, je voyais que rien ne se passait. J'étais depuis un mois ou deux dans cet hôpital. Ça a été assez compliqué, parce qu'à un moment, ils voulaient m'enlever les yeux. Enfin bon, tout en passant, c'était pas agréable. Et j'ai fini par appeler le centre de rééducation. Parce que le médecin m'avait dit, c'est trop tôt. Et moi, vous allez avoir une dépression nerveuse. Et comme je voyais que la dépression nerveuse n'arrivait pas, je me suis dit, perdons pas de temps, et je vais forcer la porte de ce centre de rééducation. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé comme un âne, vraiment pendant un an et demi, pour retrouver l'indépendance, c'est-à-dire...
Je vous coupe un instant, pardonnez-moi, justement, n'anticipons pas, parce que justement, je voulais faire écouter un deuxième extrait du film qui va lancer ça, qui va évoquer ça. C'est toujours Black Sun qui raconte la vie de notre invité Hugues de Montalembert depuis ce qui lui est arrivé en 78.
À cette époque, j'ai tout de suite compris ce qui m'arrivait et je me suis dit, faisons comme les animaux. Dors, attends, ne pense pas. Et ne te désespère pas. Ça changera. Dieu merci, ça a changé. Sinon, ça aurait été terrible. Je suppose qu'on devient comme un ordinateur. On reçoit des milliards et des milliards d'informations minuscules. Et petit à petit, à la fin, se forme une image visuelle. C'est pourquoi ça n'a peut-être pas été si difficile pour moi de m'adapter à cette situation de ne pas voir. Automatiquement, mon cerveau produisait des images, tout le temps. Des images, exactement comme un film. Je faisais des films dans ma tête.
Voilà, c'est un extrait de Black Sun, et c'est la propre voix du Duc de Montalembert. Je ne sais pas quel mot employer parce que c'est un peu inadapté, mais il y a quelque chose de fascinant dans ce film. La manière dont vous en parlez, la diction, la musique, l'ensemble est absolument prenant. Et on a envie de le voir jusqu'au bout, genre comme là tout le monde, c'est visible facilement sur YouTube, Black Sun, c'est Gary Tarn. Racontez-moi pourquoi il a voulu faire ce film, ce jeune homme d'ailleurs, parce que longtemps après les faits.
Il y a eu un article dans un magazine, parce que j'ai publié, donc après ça j'ai publié ce... Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour gagner sa vie quand même. Je ne peux plus faire de film. Donc je me suis dit, au fond... j'adore écrire, je vais écrire, et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire un sujet sur lequel j'ai des informations de première main, qui est comment est-ce qu'on se rebranche dans la vie quand on perd d'un seul coup la vue. Et j'ai écrit ce livre qui s'appelle, j'ai écrit ce livre qui s'appelle La lumière assassinée, et qui a très très bien marché, qui a été traduit énormément, et il y a eu un article à Londres, en Angleterre, et Gary l'a lu, ça l'a intéressé, il est venu me voir, je lui ai dit non, je ne voulais pas qu'on fasse des films là-dessus. Comment est-ce qu'il s'appelle, le musicien, pas Mick Jagger, mais l'autre...
McCartney?
Non.
L'autre Rolling Stone?
Non, rock'n'roll, aussi fameux.
Il y en a beaucoup, peu importe.
Oui, qui m'avait demandé, lui, de carrément jouer le rôle.
Ah oui, d'accord.
Il m'a fait venir... type qui a joué The Elephant Man, ça vous dit rien?
Ah si, si, bien sûr. C'est John Hurt?
Non, alors ça c'est le film, mais il y a eu un musical.
Ce n'est pas grave.
Et je ne voulais pas être représenté à l'écran. Et donc je lui ai dit non, et il est revenu. Trois fois. Et je me suis dit, mais au fond, à son âge, moi, j'étais comme lui, en train d'essayer de trouver des sujets, des films, etc. Bien sûr. Et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Il m'a dit, je veux faire un film d'art et d'essai, 6 à 8 minutes. Je lui ai dit, bon, écoute, d'accord, on le fait. Et on est sorti avec un film qui fait une heure et, je sais pas, 18 minutes, je ne sais plus.
Pour faire de la psychologie du café du commerce, est-ce que le fait de faire ce film a été pour vous libérateur?
Pas du tout. Non, intéressant. Mmh. Pas du tout. De même que le livre, Pivot m'a posé la même question pour le livre. Il m'a dit, vous avez dû faire ça comme une catharsis.
C'est ça.
C'est ça, oui. Mmh. Et je lui ai dit, non, moi, j'ai écrit ce livre pour faire de l'argent. Il dit, oh, je vais demander à l'envers, vous ne pouvez pas dire une chose. Non, je lui ai dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est un très bon motif.
Je ne vous crois pas, ce n'est pas suffisant. Parce que si vous ne seriez pas un artiste, l'argent était la seule chose, était le seul moteur.
Que c'était...
Non, non, vous seriez banquier.
La chose... Non, non, pas du tout, je ne peux pas être banquier.
Je sais bien, je veux dire que l'argent n'est pas votre moteur. Vous faites de la provocation, mais c'est assez drôle.
Non, non, vous n'avez pas compris ce que je dis.
Bon.
Je dis, quand vous êtes dans cette situation, à 35 ans, comme vous l'avez dit, et que vous n'avez pas une fortune personnelle, etc., vous vous dites, comment est-ce que pour ne pas pourrir, vais-je gagner ma vie? Ce n'est pas une question minime.
Bien sûr.
C'est une question. Donc, il faut réinventer un autre métier, etc. Je ne peux plus être peintre, je ne peux plus être... Donc, je me suis dit, on va écrire un bon sujet et je pense que ça va faire de l'argent, etc. Oui.
Le fait de ne plus pouvoir exercer l'activité de peintre et de réalisateur, c'est une souffrance que vous avez vite dépassée?
Non, c'est pas... Oui, non, non, j'ai pas... Non, non, ce qui est... Voilà. Par contre, ce que je découvre bien des années après, c'est que le cinéma ne me manque pas tellement. D'ailleurs, je vais quelquefois au cinéma. Ce qui me manque beaucoup, c'est de savoir ce qui se passe en peinture contemporaine.
Je comprends.
Voilà. La peinture me manque. Le cinéma, non.
Mais dans le fait de voir les œuvres des autres ou dans le fait de créer, qu'est-ce qui vous manque?
Non, 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 non. De voir les autres. Oh non, créer, absolument hors de question de toucher à quoi que ce soit.
Oui, mais est-ce que ça vous manque?
Oui, ça m'a manqué à un moment, ça ne me manque plus.
Je crois que la musique joue un rôle important dans votre vie, nous avons parlé un peu ensemble avant l'émission, et vous vouliez entendre Sanson François jouer la fantaisie numéro 3 de Chopin, dites-moi juste pourquoi.
Ah, pourquoi? Parce que je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, et que Chopin dit que c'est la plus belle chose qu'il ait écrite, et j'ai lu une description où il joue cette fantaisie, et la personne dit, et au moment où je crois qu'il y a un contre-hut ou quelque chose comme ça, enfin, très élevé de cette courte fantaisie, Chopin quitte le clavier, joint les doigts et dit « Oh, mon pays !» Parce que la Pologne vient d'être détruite par la Russie.
Comme souvent. Sanson François qui interprète donc cette fantaisie numéro 3 de Chopin, c'est le premier choix musical d'Hugues de Montalembert. Ravissons aujourd'hui le Kilimandjaro, métaphoriquement, avec Hugues de Montalembert. Merci encore d'être avec nous. Vous étiez un peintre, un cinéaste, parfois un photographe, jusqu'à l'agression dont vous avez été victime et qui vous a fait perdre la vue. La question est banale. Est-ce que les autres sens, notamment l'ouïe, se développent? Est-ce que vous aimez plus la musique maintenant?
Beaucoup. Je me suis aperçu au bout de quelques temps, qu'en fait, jusqu'à cet événement, j'avais surtout regardé le monde. Toute l'histoire est de savoir à quoi on utilise nos sens. C'est-à-dire, vous utilisez vos yeux pour éviter les murs, les poteaux, les fossés, ou pour comprendre le monde.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Vous utilisez vos oreilles pour vous renseigner à quelle heure part le train ou pour comprendre le monde. C'est la même chose. Et je me suis dit, tu n'as pas assez écouté les autres, etc. Même si je faisais des documentaires et j'écoutais quand même, mais tu n'as pas assez écouté. Au centre de rééducation, ils m'ont dit, on vous a mis en poterie parce qu'on a vu que vous étiez un artiste en poterie. Je dis, pas du tout, moi, je veux faire du piano. Ah, on ne savait pas que vous saviez faire du piano. J'ai dit, j'ai jamais fait de piano. Je veux commencer à 35 ans à faire du piano. Et j'ai commencé à faire du piano. J'ai trouvé un professeur. Enfin, c'est toute une aventure et j'ai adoré. Ça m'a ouvert le monde de la musique. Je suis un mauvais pianiste parce qu'à 35 ans, voilà, c'est trop tard. Je suis un mauvais pianiste, mais ça m'a ouvert la musique.
C'est une place importante dans votre vie maintenant?
Essentielle, oui.
Bien sûr.
Essentielle, c'est-à-dire que ça... Dans les moments difficiles, ou même pas, comme cela, tout d'un coup. Vous avez, puisque vous ne pouvez pas voir les couchers de soleil ou les levées, bon, bien ça, c'est magnifique.
Est-ce que les voix des gens vous informent sur eux? Est-ce que vous êtes sensible?
Bon, alors, vous parliez justement, est-ce que les autres sens? Oui. On comprend, c'est-à-dire qu'on utilise tout. J'utilise, par exemple, là, je portais en général des chaussures avec des semelles très fines pour pouvoir sentir le terrain avec les pieds. On utilise tout ce qu'on peut qui puisse compenser la vue. Tout. Le nez. Par exemple, si je suis dans la rue, je sens une odeur de terre, danger, il y a des travaux. Quelque part, il y a un trou.
Mm-hmm.
Hein? Ou un bruit. C'est une portière qui s'ouvre. Attention. Hein? Vous utilisez tout. Tout ce que vous pouvez.
Vous dites...
Et évidemment, la voix des gens vous donne le visage.
Ah, vraiment?
Alors, c'est un visage que vous fabriquez, mais je pense qu'à la fin de l'interview, j'aurai un visage qui ne correspondra pas au vôtre, mais qui sera le mien.
Enfin, c'est vous,
vu par moi.
1m12, 115 kilos. Mais plus sérieusement, est-ce que vous dites un mandat?
Ça s'entendrait.
Ça s'entendrait, c'est vrai?
Oui.
Bon, est-ce que...
Par exemple, une femme,
oui.
Je sais si elle est belle ou pas.
Mais
évidemment, parce qu'elle le sait. Et vous l'entendez dans sa voix.
Vous pensez qu'il y a une assurance et que le timbre de voix n'est pas le même, c'est ça que vous voulez dire?
Je le sais.
Je sais.
Ah, voilà. Bon. Et alors, vous avez des folles qui se croient belles. Là, c'est de la catastrophe.
Et vous l'entendez aussi, ça vous...
Parce que vous entendez qu'elle est belle, or c'est sa folie.
Vous dites à un moment dans le film Black Sun, j'ai voulu assez vite me comporter normalement. Je vois que ce n'est pas le cas quand même, malgré tout.
Ah ben, c'est normal pour moi.
Ah, je vous taquine.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous comportez normalement?
Justement, ça n'a aucun sens.
Mais c'était votre but, c'est ce que vous dites clairement dans le film.
Oui, c'est-à-dire, non, c'est ce que je dis dans le film, c'est qu'il ne faut pas se comporter comme un aveugle. Et c'est amusant parce que je suis allé dans plusieurs pays, comme le Canada, etc. Parler dans des écoles, en France, parler dans des écoles de jeunes aveugles, à l'INJA par exemple, ici à Paris, pour leur dire, ne vous présentez pas comme un aveugle. Ne regardez pas avec vos oreilles. Apprenez à vous comporter comme une personne normale, c'est-à-dire normale qui voit, en somme, pas l'aveugle. Hein?
Bien sûr, c'est réducteur.
Donc, c'est très important. Et je suis très scandalisé que dans les écoles de rééducation, surtout pour les enfants, on ne leur donne pas des cours de maintien. Vous comprenez ce que je veux
dire? Oui, très bien. Ça va très bien.
C'est important pour mettre l'autre. Hein? Par exemple, regardez l'autre, que si je vous parle et que je vous parle, ça, vous comprenez, etc.
Et en plus, on ne vous entend plus à la radio si vous faites ça.
Oui, en plus, mais de façon à ce que l'autre soit pas obsédé. Parce que l'aveuglement obsède, d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir dans la littérature. C'est un sujet qui a eu beaucoup de d'interrogations.
Bien sûr. Oui. Bah, c'est un grand mystère pour nous, et on se demande toujours quel est
votre monde.
Oui,
c'est curieux, hein, alors que d'autres choses comme la surdité n'en pas.
Absolument.
L'aveuglement, c'est... Par exemple, ah oui, mais je le raconte, je crois, dans le film, un type vient faire une conférence au centre de rééducation à New York et dit « Depuis que je suis aveugle, je suis devenu bien meilleur, etc. » Et je lui crie du fond de la salle « Coupe-toi les jambes, ça sera encore meilleur.
» Vous êtes infernal.
Et on me fout à la porte avec un autre type qui était à côté de moi, qui riait beaucoup à ma réflexion. On nous a foutu à la porte. Le type était il arrivait d'Inde, il était arrivé la veille au centre de rééducation, il était aveugle. Et voilà, vous comprenez, on vous prête carrément presque un pouvoir mystique, quelque chose comme ça. Non, absolument pas. Il y a des salopards aveugles.
Absolument. Et des crétins aussi, toutes sortes d'aveugles.
Voilà.
Je voudrais qu'on écoute un troisième extrait de Black Sun, qui est un film fait donc assez étonnant par ce jeune Gary Towne, et dont vous êtes le personnage principal et le narrateur, où vous racontez qu'un jour vous en avez assez dans la maison de rééducation et vous voulez tenter quelque chose qui n'est pas permis.
Pour des raisons personnelles, après 7 mois de cet entraînement, j'ai voulu aller voir quelqu'un au milieu de la nuit. Je me suis dit, je suis sûr que je peux marcher seul dans la rue cette nuit. J'ai attendu 3h du matin quand la ville est complètement calme et que vous pouvez utiliser tous les sons. Et j'ai marché jusqu'à sa maison. 7 blocs sur Madison Avenue. Je connaissais le trajet. Je connaissais Madison Avenue comme la paume de ma main. Mais c'est tout autre chose de marcher dans une rue, même que vous connaissez bien, les yeux fermés. C'est allé bien et j'ai compris que j'allais pouvoir me déplacer avec indépendance. Quand j'ai dit ce que j'avais fait à la Lighthouse, ils n'ont pas été très contents. Ils trouvaient que c'était beaucoup trop tôt, que c'était dangereux. Mais je savais que j'approchais du but. L'excitation d'avoir fait ça était prodigieuse.
Un extrait de Black Sun, c'est Hugues de Montalembert qui raconte sa propre vie, sa propre expérience, et vous le faites vraiment d'une manière qui nous prend, qui nous saisit. Est-ce que c'était le premier, cette sortie en ville, donc interdite, c'est le premier d'une série de choses dont vous n'auriez pas dû faire, de défis que vous êtes lancés?
C'était pas des défis, hein. c'était autre chose, c'était de vouloir briser la cage.
Vous avez réussi.
Oui, mais ça n'a pas été fait tout de suite, même après ça, c'était... Et puis ça finit par cette chose...
Il faut aller vous tourner un petit peu vers votre gauche, là, voilà. Le micro est plus par là, voilà. Oui, pardon. Vous êtes parti en voyage assez vite, en plus.
Voilà, c'est ça. La vraie brisure, ça a été... Je n'ai rien dit à personne, et je suis allé à Kennedy Airport, et j'ai pris un avion, et je suis parti en Indonésie.
Pourquoi là-bas?
Parce que... Vous allez me croire obsédé pour des raisons d'argent. Je suis sorti de l'hôpital ruiné. J'avais pas un sou. Indonésie, je parlais l'indonésien, et je savais...
Ah bon?
Oui, le malayou. Enfin,
comment se fait-il?
Ben parce que j'avais vécu 4-5 ans, oui.
D'accord.
Et je savais que je pouvais y vivre pour très peu. Donc, je me suis dit, je vais aller écrire mon bouquin là-bas.
Seul, bien sûr.
Oui.
Seul par choix ou parce que nul ne vous aurait accompagné au fond?
Oh, par choix. Par choix. Et surtout, je ne l'ai dit à personne.
Mmh. Oui, c'est donc votre choix.
Oui.
Je crois que vous, enfin, je ne suis pas indiscret, puisque vous le dites dans le film, votre petite amie de l'époque vous a quitté. Après le...
Ah, tout de suite.
Tout de suite. ça vous a fait quel genre d'effet?
Rien, je la connaissais bien.
Vous n'étiez pas surpris, donc?
Non, j'étais trop occupé, pour vous dire la vérité, trop occupé à remonter à la surface pour avoir des peines d'amour. Vous comprenez ? Si vous êtes à Auschwitz, vous ne pensez pas tellement à certaines choses. Vous êtes dans la survie.
C'est vrai, mais est-ce que j'imagine aussi qu'on a besoin de s'accrocher à des gens qui nous aiment, qui nous soutiennent, et on doit se sentir un peu trahi, non ?
Non, pas du tout. Non, mais ça fait partie de la vie. Non, vous êtes... Il n'y a que la réalité qui est intéressante dans ces cas-là pour être efficace. Alors, vous voyez les gens qui, eux, font vraiment quelque chose pour vous. J'ai eu deux filles extraordinaires, d'ailleurs, qui est une amie, et ma première femme, qui est revenue, elle, habiter Singapour, elle est revenue, et à elles deux, elles m'ont pas cassé les pieds, elles ont organisé les choses, etc. Elles ont été efficaces, elles n'étaient que pragmatiques. Ne m'ont pas fait des blablas, du tout, rien du tout.
Bien sûr.
Hein? Et puis un ami qui m'a apporté tout de suite une montre. Avec... Non, il n'est pas venu me l'apporter parce qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas rentrer dans un hôpital parce que ça le bouleversait. Donc il m'a fait porter une montre qu'on pouvait toucher et savoir l'heure. Ce qui est très important.
Des détails comme ça.
Ce sont des détails.
Bien sûr, mais qui changent la vie. Dans Le Voyage en Indonésie, vous racontez dans le film, on ne peut pas écouter tout le film ici, non. Mais vous racontez un moment cette chose assez intéressante où vous arrivez, les douaniers chinois veulent vous interdire l'accès.
Ah oui.
Pourquoi et comment vous en sortez ?
Ah oui, non, ils m'ont dit, oui, c'est ça. Ils m'ont dit que, non, Air China, ou je ne sais pas quoi, n'acceptait pas les aveugles qui voyageaient seuls. Et j'avais entendu derrière moi dans la queue un type, un Anglais, qui allait à Bali. Et donc, je me suis tourné, je lui ai dit, vous voyagez avec moi, n'est-ce pas ? But of course.
Donc voilà. Il est passé pour votre accompagnant.
Donc, et j'ai dit au douanier chinois, oui, je suis accompagné. Voilà. Alors ça fait rire. Non, challenge quand même. Et j'ai fait un challenge, justement. C'est vous qui me le rappelez. En Indonésie, un soir, je suis avec mes copains, un balinais, Komang Karang, que je connais depuis les années 70. Donc vous voyez, on est en 62, depuis 10 ans presque. Et... on parle du Gunung Agung, qui est le volcan qui est au-dessus de la maison que j'habitais. Cet immense volcan terrible qui érupte, etc. Et on se dit, mais on pourrait aller au sommet, c'est très beau, etc. C'est quand même 2500 mètres, quelque chose, 3000 mètres, je me rappelle. Et puis, ils me disent, Bissa, on peut. Et puis, je les entends qui répètent, Bissa, oui, oui. On peut. Et on va acheter des sacs des sacs à dos. Et on part le lendemain matin, à 3h du matin, et on commence l'ascension. On est revenu, je crois, à minuit.
Hein? Et quel genre de sensation, une espèce d'ivresse de dire je peux le faire ?
Inouï, mais surtout l'admiration que j'ai pour ces balinés qui m'ont fait monter les 3000 mètres de chute du Gunung Agung en me tenant les doigts. Mmh. Hein, formidable, absolument extraordinaire. Et alors c'était extraordinaire parce que c'était un monstre. Et je me suis aperçu que tous les temples de Bali, parce qu'ils me décrivaient, une fois arrivé au sommet, tous les temples de Bali sont pointés vers le Gunung Agung. C'est-à-dire on veut le séduire.
Oui, mais ça, pardon, je mets les pieds dans le plat, mais ça, Hugues, on vous le dit, vous ne le voyez pas.
Il me décrivait.
C'est ça, il vous le décrivait. Du coup, vous concevez l'image après.
Immédiatement. Pas après. Pendant.
Bien sûr. Ouais. On a parlé de Paul McCartney tout à l'heure. Vous savez que d'après lui, la meilleure chanson de tous les temps, la meilleure, est une chanson des Bee Gees. Des Beach Boys, pardon, ne pas confondre.
Ah bon ?
Des Beach Boys.
Oui.
Comme vous dites que vous aimez bien ce groupe, j'ai pris la liberté de nous faire écouter God Only Knows, la meilleure chanson de tous les temps d'après Paul McCartney. Une référence quand même.
Okay. As there are stars above you, you'll never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me.
So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. But still go on believing the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you.
God only knows what I'd be.
God only knows what
I'd be.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent, partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Radio Courtoisie nous traque partout, ça fait presque peur en écoutant ça. Non, c'est bien, bravo pour ces nouveautés techniques, c'est important pour que les gens puissent nous écouter de toutes les manières possibles. Nous sommes avec Hugues de Montalembert qui nous raconte sa vie, sa créativité, un moment brisé, mais qui a repris très vite après l'agression dont il a été victime, qui devait perdre la vue. Pourquoi êtes-vous resté au début aux États-Unis? Vous ne voulez pas revenir en France? Après l'accident, vous êtes resté un certain temps quand même, pourquoi ce choix?
Oh ben, New York a été quand même... le dernier appartement que j'avais à New York, 83, 15 ans, hein, je suis arrivé en 68, j'étais dans le Vermont, parce que 68, l'université française s'écroule.
Ah bon?
Donc je me dis, je vais perdre mon temps, je pars aux États-Unis comme... comment on appelle ça? Instructeur hippique?
Ah oui, moniteur d'équitation, enfin?
Ben, c'est ça, voilà.
D'accord.
Moniteur d'équitation, dans le Vermont. 70 chevaux, 300 filles. Et je me dis, le rêve américain n'est pas un rêve. N'est-ce pas? Ça a été absolument fantastique. 3 mois, et ces filles, d'ailleurs, je suis encore en contact avec certaines de mes élèves.
C'est vrai.
Vous voyez, 68, c'était quand même pas. Elles n'ont plus 14 ans. C'était très intéressant. Et je suis vraiment. Ça a été mon point de vue. Ça a été ma maison pendant. Mais je voyageais beaucoup, c'est-à-dire que c'était mon port d'attache, voilà.
Dites-moi.
Ceci dit, pour quitter un petit peu cette période, je voulais quand même profiter de l'occasion dire que je vais sortir un bouquin prochainement. Pour l'instant, le titre est, et vous allez le comprendre, je suppose, Seul le passé est imprévisible. Et ça sera l'histoire d'une rencontre avec une ballerine de Maurice Béjart, en fait.
Ah oui.
Et qui au bout d'un moment, quitte Maurice Béjart, et on est sans argent, toujours l'argent, n'est-ce pas? Sans argent, et je lui dis, ne t'inquiète pas, on va faire des chorégraphies, et moi je vais te faire le thème des solos. On a créé des ballets, des solos, à Varsovie.
Mais attendez, ça c'est là une fiction, vous l'avez vécu?
Non, ça c'était en 80.
Ah, vous racontez cette histoire, racontez.
Et ça se finit à Saint-Pétersbourg.
Question technique, pratique, toute bête, comment écrivez-vous?
Alors, le premier... qu'est-ce que c'est? Oui, La lumière assassinée.
Oui, c'est ça. Oui.
Je l'ai écrit où, parce que à Bali, j'étais une maison pas chère, donc pas d'électricité. Donc je l'ai écrit au crayon bille sur des cahiers à spirale, n'est-ce pas, en déplaçant un carton pour avoir une ligne droite. Et ça fait à peu près 800 pages d'écriture, évidemment, imprimé, ça fait moins. Mais c'était ça s'est fait assez bien.
Au crayon, je suis stupéfait.
Au stylo bille. Et le matin, je demandais, il y avait une fille qui faisait la cuisine, Poutou. Je dis, Poutou, dis-moi là, Toulis, où est-ce que je me suis arrêté de l'écriture ? Tidada, il n'y a pas d'écriture. Comment Tidada, il n'y a pas d'écriture ? Je retourne des pages en arrière, Tidada. 6 pages, pas d'écriture.
Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ?
Eh ben, il n'y avait plus d'encre dans le stylo bille.
Vous n'avez, bien sûr. Et vous ne saviez pas ?
Non.
Alors vous qui voyez les visages, elle était jolie, Poutou ?
Charmante.
Ah, bien sûr.
Absolument charmante. Oui, oui.
Mais j'aurais dû m'en
dire. Les balinais sont en général, elles ont cette élégance extraordinaire.
Je prends ça un peu à la légère, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Hein, mais à aucun moment de ce parcours, vous n'avez eu envie de chercher un échappatoire malsain, par exemple, de vous droguer, d'essayer d'oublier.
Ben, ça, c'est drôle, parce que j'ai un ami, malheureusement, il est mort d'une overdose, d'ailleurs. Très grand, un des plus grands peintres australiens. Ses toiles se vendaient $1 million, enfin, des trucs insensés. Brett, j'en parle dans mes deux livres, dans La lumière assassinée et dans À perte de vue. Brett, qui était sur l'héroïne, m'a dit, mais je ne te comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas ? Dans ton cas, ça te faciliterait les choses, etc. Malheureusement, j'avais fait ce film en 70-71 sur l'héroïne à New York. Et je dis à quiconque, à par exemple un enfant ou quelque chose qui prend de la drogue, faites une chose, prenez-le et emmenez-le à la morgue.
Directement.
Donc, directo,
ça vous protégeait.
Faites pas de blabla. Oh bah, le message était clair.
Le fait de savoir ça vous a empêché de sombrer là-dedans.
Oh, d'y toucher.
Bien sûr.
Même pas de sombrer, d'y toucher.
Pas de tentation encore plus dramatique que ça ?
Oh, mais j'ai fumé de l'opium, comme tous les gens qui ont vécu en Asie, mais très... J'ai quelqu'un de pas du tout addictif.
Mais pardon, encore une fois, j'enfonce une porte ouverte.
Comme vous prenez un cognac.
Ah, un cognac, d'accord.
Pareil.
Ok. Opium pour tout le monde.
Mais
c'est convivial.
Mais c'est une question de culture.
C'est vrai. Mais la tentation, par exemple, est-ce que vous avez dû être tellement frustré de ne plus pouvoir créer, vivre la vie que vous meniez, active, passionnante.
Je crée pas mal, voilà. Aucun marchait bien, oui.
À aucun moment, et pardonnez-moi si je vous choque, à aucun moment vous vous êtes dit, la vie ne m'intéresse plus, je me supprime.
Je crois que c'est le secret de toute l'histoire. J'adore la vie.
Malgré tout. À aucun moment vous avez eu peur de,
c'est
envie
pas
de la
malgré
quitter.
Malgré tout, j'adore la vie, point.
Point final.
Il n'y a pas de malgré.
Vous avez raison.
Aucun malgré. J'adore la vie, c'est tout.
Si vous êtes d'accord, on va écouter un quatrième extrait. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Un quatrième extrait de Black Sun, du film qui raconte ce parcours assez stupéfiant du Montalembert.
J'ai dû apprendre à être aidé. La première fois que j'ai marché hors de ma chambre à l'hôpital, juste pour me promener dans le corridor, et que je me suis retrouvé à tenir le bras d'un ami, d'une amie, j'ai compris que j'allais devoir recevoir de l'aide tout le temps et qu'il fallait l'accepter. Et si vous avez un caractère très indépendant et pas très patient, c'est une bonne école pour améliorer votre caractère. Si je veux quelque chose, je sais que ça va être difficile. Mais je l'obtiendrai. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je l'obtiendrai.
Plaxon, c'est la voix du Duc de Montalembert sur des très belles images. À ce moment, je vous souhaite très bien de ce passage où on voit justement des danses balinaises. C'est splendide, c'est tout ralenti, c'est lent, c'est très réussi, c'est très joli. Je vous disais à l'instant que vous aviez un caractère énergique et autonome. Le fait d'être amené à dépendre de l'aide des autres a été un peu mortifiant au début.
Très dur. Très dur, il faut l'accepter.
Bien sûr, pas le choix.
Non. Si vous comprenez qu'il s'agit de remonter à la surface, c'est-à-dire de... oui, il faut accepter tout.
Bien sûr.
Et vos petits ressentiments personnels, etc., il faut marcher dessus.
C'est un effort important.
Oui.
Ça prend du temps et après c'est une fois pour toutes
non,
ou bien
non, mais
c'est
j'ai
permanent.
Même au centre de rééducation, ils m'ont donné, parce que comme je suis allé assez, j'étais ce qu'on appelle un good traveler, c'est-à-dire je me débrouillais bien dans la rue. Et c'était assez rapide. Et il y avait des garçons qui étaient là depuis plusieurs années. Et alors c'est très intéressant, surtout dans la communauté noire afro-américaine.
Ah bon ?
Ils ne voulaient pas avoir le regard, et surtout le regard des filles, hein, je parle de, c'était des adolescents, sur eux en train de tâtonner dans la rue avec une canne. Et je comprends, et je leur disais, mais tu dois t'en foutre ce qu'il s'agit. C'est de toi, c'est de ta vie, c'est de retourner, etc. Très difficile.
Et vous êtes arrivé à cette libération-là d'être indifférent au regard des autres ?
Oui, je crois que l'humour m'a beaucoup servi aussi. Parce que dans toute situation même tragique, l'humour continue, l'humour, l'ironie de la vie. Voilà. Et donc si vous ne perdez pas, tant que vous conservez le sens de l'humour, vous êtes gagnant.
J'imagine, mais c'est difficile. Mais vous pratiquez même, y compris l'autodérision ?
Bien entendu. Bien entendu. Ça ne me vient pas à l'esprit, mais ça m'est arrivé si souvent. Cherchant un objet et mettant la main sur la fesse d'une des conseillères du centre de rééducation, et je dis non, c'est pas mon tépricorde.
Non, c'est pas ça.
Et je voyais les femmes de ménage, j'avais laissé mon tape-recorder justement ouvert par erreur, et j'ai entendu les commentaires des femmes de ménage de l'hôpital. Elles disaient « Oh, he's such a good boy, il est un garçon charmant, etc. Dommage qu'il ait ce terrible sens d'humour. En » fait.
So French.
Non, les femmes, elles n'avaient aucune idée de ce que c'était qu'un français.
Ben si, vous étiez là.
Non, elles ne savaient pas. C'est des femmes de Harlem.
Est-ce que vous pourriez écrire, puisque c'est maintenant votre activité artistique principale, est-ce que vous pourriez écrire, parce que malgré tout, vous tournez souvent autour de cette idée de la vue, est-ce que vous pouvez écrire quelque chose totalement différent, une histoire d'amour au Moyen-Âge, enfin un truc qui n'a rien à voir avec votre vie ?
Ça ne m'intéresse pas.
Ça ne vous intéresse pas ?
Pas du tout.
Pourquoi ?
J'en sais rien. C'est comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est la vie. C'est vraiment la vie. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir cette danseuse. Ou bien alors, ma femme est danoise, elle est peintre. J'adore suivre son travail.
De quelle manière ?
Eh ben elle me prend le doigt, elle me le montre, etc. Donc, c'est très intéressant, parce qu'il y a certaines de ses peintures, de séries de peintures qu'elle fait, je les vois très bien. Je n'ai pas de problème. Et puis certaines, il n'y a rien à faire. Elle peut tout me dire, tout m'expliquer, je ne les vois pas.
C'est votre femme, vous l'avez rencontrée après ce qui est arrivé ?
Bien après. Je l'ai rencontrée en Australie, après la Russie, parce que je suis allé vivre en Russie aussi.
Ah oui, autant s'amuser, mais vous êtes allé voir.
C'était formidable, c'était au moment de l'écroulement de l'Union soviétique, c'était passionnant.
J'imagine, mais vous saviez ce qui se passait, vous suiviez les tensions de la ville, l'inquiétude, la libération, vous avez vécu ça.
J'étais en relation avec plein de gens, oui, absolument. Et d'ailleurs, le livre à venir, là, que j'appelle... Seul le passé est imprévisible, parlera de ça, oui. Le livre se termine justement dans ce Saint-Pétersbourg où tout change, le système de valeurs change, c'est-à-dire, par exemple, les professeurs d'université qui étaient au sommet de la pyramide sociale tombent par terre, ils sont payés comme un policier de la rue, enfin même pas. C'est très intéressant.
Voulez-vous que nous écoutions Barbara? On en a parlé un peu ensemble. Hein. Dis quand reviendras-tu, c'est peut-être une des plus jolies chansons d'amour.
Ah oui, très bien.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire, et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne, ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous de mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai ma route, le monde m'y merveille, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape, ne se rattrape, ne se rattrape.
Quelle beauté.
C'est magnifique, hein. On a beau la connaître absolument par cœur,
quelle
et ça fait toujours le même effet.
Elle est un exemple de quelqu'un qui a eu vraiment un drame épouvantable dans sa vie, tout le monde le sait.
Bien sûr.
Et regardez ce qu'elle en a fait. C'est magnifique.
Et alors, vous me lancez sur cette question, vous ne le faites pas exprès, mais du coup j'y viens. Comment la formuler? Est-ce que vous pensez vous-même que ce qui vous est arrivé a fait de vous quelqu'un de complètement différent et...
Pas du tout. C'est intéressant, oui, parce que ça m'était posé plusieurs fois, même dans ma famille. Je ne vois pas de brisure. Je suis absolument dans la continuation de ce que j'étais.
Je comprends.
Ouais, c'est curieux, non, parce que pour moi, j'aurais pensé que peut-être, non. Non, et je le craignais énormément, parce que je ne savais pas ce qu'était cet autre-là. Et en fait, non, j'ai continué à être et à développer ce qui m'intéressait, etc.
Visiblement, en tout cas, l'écriture, c'est le cœur de votre vie.
L'écriture, j'ai toujours été passionné de littérature et j'ai écrit depuis l'âge très très jeune. Mais je ne pensais jamais en faire un métier. Oui, c'est mon activité quotidienne.
Votre famille, Montalembert, c'est un nom qui nous parle, c'est un nom qui fait partie de l'histoire de France. Il y a depuis longtemps des gens, des serviteurs de l'État, des militaires, des ministres, il y a beaucoup de gens de votre famille qui sont illustrés. Et il y a peu d'artistes jusqu'à présent. Et puis il y a vous et votre frère maintenant, comédien.
Non, ils étaient tous militaires en général.
Jusqu'à vous, ça ne rigolait pas chez les Montalembert.
Non, c'est vrai, ce sont des gens sérieux. Mais dont je suis assez fier parce que, par exemple, j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, que mon grand-père Saint-Cyr, comme son père, son grand-père, etc., indéfiniment, rue de Varennes, Dreyfusard.
Non, ça c'est étonnant, oui,
oui, on est dans ce milieu-là. C'est intéressant dans ce milieu et dans l'armée, etc. Non, non, il y a, par exemple, ils étaient, il y avait la, ma grand-mère me disait, la plupart de ces familles, ils n'ont pas ce que nous, très prisé chez les Montarabiens, la bonhomie. Et moi, je trouvais extraordinaire ce mot, la bonhomie, qui n'est plus du tout employé. C'était important. Mon grand-père allait toujours au village en bicyclette afin de pouvoir parler aux gens.
Oui, je comprends. Et votre frère, votre jeune frère, est comédien aussi. Il a choisi également.
Mais lui, il est arrivé 20 ans plus tard. Alors, l'éducation n'était pas la même.
Déjà, vous trouvez que ça a changé beaucoup ?
Alors, mes parents étaient très vieux. Mes parents dansaient, c'était l'après-guerre, c'était une fête absolument incroyable, tandis que lui, il est tombé avec des parents très âgés, donc une éducation. Et puis, la Mayenne avait été vendue, donc, etc. Donc, non, il vient de la même famille, on est frères, mais effectivement d'un autre monde.
Je comprends.
Oui.
Vous savez ce qu'il fait, vous suivez, évidemment.
Je l'aime beaucoup et on est très très proches.
Votre vie quotidienne, évidemment, est affectée à chaque instant. Vous le disiez avec beaucoup de noblesse au début, acceptez qu'on vous aide, acceptez qu'on vous aide. Néanmoins, est-ce que dans votre vie, il y a des plages de temps où vous êtes seul et où c'est
beaucoup.
Votre mémoire qui vous guide et est-ce que vos souvenirs visuels vous envahissent ?
Covid, par exemple.
C'est-à-dire ?
Les 3 mois du Covid, dans, comment est-ce qu'on appelle ça, l'enfermement ?
Le confinement.
Le confinement.
Ça vous a plu ?
Je les ai passés par choix. Seul, en haut d'une colline, en Espagne, au-dessus de la mer.
J'ai le sentiment diffus que vous n'avez pas été vacciné, je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça.
Si, parce que moi, bouger, si on me dit ne plus pouvoir bouger, alors pour prendre l'avion, oui.
Oui, voilà, pas le choix.
Voilà.
Vous voyagez encore beaucoup ?
Oui, beaucoup. Beaucoup.
Par goût, par envie, pas par nécessité, pas pour l'argent.
Si, toujours pour faire quelque chose.
Oui, c'est ça.
Toujours, pas... J'ai jamais voyagé par curiosité. Le voyage, mais je me demande si dans Black Sun, je le raconte quand je suis parti dans l'Himalaya, non ?
Oui, en effet.
Oui, c'est ça, voilà. Des choses comme ça. Alors là, c'était pour chercher une... J'étais amoureux. Et je cherchais une fille, donc je suis parti dans l'Himalaya.
Là encore, c'est vous qui me guidez, je n'osais pas le faire. L'amour, ça change ou pas par rapport à ce qu'il y a ?
Moi, j'étais sauvé par les femmes. Ça, je le dis très, très, très... Mais alors, vraiment, vraiment. Et là, on voit que les femmes sont, dans les deux sexes, celles qui donnent la vie. Elles m'ont permis de retourner à la vie. Oui, oui. La générosité, la compréhension. Je voyais les hommes, mes copains, les pieds tournés à l'intérieur, au bout de mon lit, très emmerdés d'être là, etc. Avec les femmes, pas du tout.
C'est vrai ?
Ah, oui, oui. Il y a une espèce de... d'utilisation de du vital. Il y a quelque chose de tellement vital. Ah non, c'est les femmes qui m'ont sauvé, absolument.
Et puis le cœur n'est pas aveugle, lui, par définition.
Non, mais je pense que les hommes ont un cœur aussi.
Ça, non, je parlais du vôtre, en l'occurrence.
Ah, le cœur n'est pas aveugle. Non, pas du tout. Non. Non, c'est très important.
Ce livre, ce film, Black Sun, il y a des choses qui sont un peu étonnantes, certaines sont prenantes, un peu lourdes, et parfois il y a des choses plus légères. Et là, vous racontez une anecdote assez intéressante avec un ami, écoutez plutôt.
Un jour, un de mes amis m'a dit « Comment est-ce que tu m'imagines ?» Ma figure. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu t'imagines ? Moi, je t'ai connu avant que je perde la vue. » Et il a dit « Non ». Et je lui ai dit « Ben, vérifie, j'en suis sûr. Je te le jure, je t'ai vu. » Il a dit « Non, tu ne m'as jamais vu. » Voilà, j'ai pensé « Est-ce qu'il aurait raison ?» Alors on a fait des calculs, il avait raison. Et pourtant, je savais exactement à quoi il ressemblait. Et cependant, je ne sais pas s'il ressemble à cela. La vision est une création, pas une perception. Et cela je l'expérimente tout le temps. Parce que quand je marche dans la rue avec quelqu'un et que je lui demande « qu'est-ce qu'il y a là ?» Beaucoup, beaucoup de gens me répondent « un mur » ou bien « un arbre » mais ils ne voient rien. Si je marche avec un de mes amis qui est un peintre magnifique avec l'œil le plus aigu que je connaisse. Marcher avec lui dans la rue, c'est une aventure parce qu'il voit tout. Il crée la vision et il me la donne. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité. Ce que vous voyez sera différent de ce que voit votre voisin. Alors, qui voit la réalité? Il n'y a vraiment pas de réalité.
Ça, il faut que je vous fasse réagir sur cette phrase. Il n'y a vraiment pas de réalité. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu?
C'est curieux, parce que, en fait, j'y pense là à l'instant, mais ça reflète tellement certains enseignements du Dalai Lama. Je ne suis pas bouddhique du tout, mais le Dalai Lama m'intéresse. Enfin, la pensée bouddhique m'intéresse beaucoup. Pas la religion, mais la pensée. Et ce sens qu'il n'y a pas de réel et que c'est que des apparences. Alors, c'est intéressant. C'est un sujet que j'ai bâti une conférence sur cette chose de perception, vision, création. Et je fais ici, même à Paris, à Polytechnique, une conférence là-dessus. C'était très intéressant à cause des questions que les polytechniciens me posaient, parce qu'eux posaient des questions très différentes. Je l'ai fait aux États-Unis, je l'ai fait en Chine, je l'ai fait partout. Parce que c'est un sujet passionnant.
Ça semble un peu, effectivement, par rapport à les polytechniciens qui sont très rationnels,
oui,
quelque chose
ça.
Qui devait les surprendre.
Oui. Tout de suite, ils ont compris que c'était le mécanisme, puisque aujourd'hui, effectivement, grâce au nouveau matériel qu'on a, on peut voir comment l'image se forme dans le cerveau. Et c'est très intéressant. Par exemple, j'ai rencontré un homme qui m'a dit « je suis content de vous rencontrer parce que j'ose pas en parler à quiconque ». Mais voilà ce qui m'arrive, je ne reconnais plus les gens, je les vois. Ma femme rentre dans la pièce, j'attends qu'elle parle pour savoir qui c'est. Et on sait très bien, c'est ce qu'on appelle la zone des images complexes qui est abîmée. Ça s'appelle les images complexes, etc. Alors les polytechniciens, eux, étaient très intéressés par ça, oui.
Comment est-ce que quotidiennement, quand vous découvrez, quand vous voyagez, que vous voyez un endroit pour la première fois, est-ce que ce sont les gens qui vous aident et qui vous accompagnent, qui vous disent en gros, voilà, il y a une ville comme ci, comme ça, il y a un champ vert, et de manière à ce que votre imagination travaille, ou bien vous vous débrouillez tout seul, si j'ose dire?
Oh non, pas tout, j'utilise tout. Et c'est bien les gens, mais évidemment, pourquoi éviter les gens?
Bien sûr.
Bien sûr.
Donc on vous aide, ce qu'on vous décrit, vous aide à visualiser.
Oui, oui, bien sûr, oui, oui, absolument. Bien sûr, l'ermitage, je le vois, enfin bon, voilà.
Est-ce que les souvenirs que vous, de votre vie, qui a quand même duré 35 ans, vous avez vu le vaste monde, est-ce que les souvenirs sont restés intacts? Vous vous souvenez de tout ce que vous avez vu? Quand on vous dit, enfin, je dis une énormité encore une fois, on vous dit le Panthéon, vous l'avez en tête, vous savez ce que c'est?
Je vais vous donner un exemple.
Allez-y.
La propriété de ma grand-mère en Mayenne, qui était très très belle. Bon, je n'y suis pas retourné depuis... très, 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 très longtemps. J'étais tout petit. Je crois que la dernière fois que j'étais là, je devais avoir 15, 16 ans, quelque chose comme ça. Bon, enfin. Et puis, il y a un an ou deux, mon cousin Germain me fait toucher. Il me dit, est-ce que ça te dit quelque chose? Il me fait toucher une console. Et je lui dis, console de l'entrée.
Non.
Mais je ne sais pas comment j'ai senti simplement une ferrure. Et je dis, c'est la console de l'entrée de... du Coudray.
Non, c'est pas vrai.
Et moi-même, je n'en revenais pas.
Je comprends.
Hein?
C'est un sens qui s'est développé, c'est un sixième sens.
Cette console venait de Russie. Ce que je ne savais pas.
Mm-hmm.
Hein? Donc, c'est très intéressant. Et c'est ça ce qui me passionne, c'est évidemment. C'est pourquoi est-ce que cet objet, Pourquoi la tapisserie? Pourquoi est-ce que je regardais la tapisserie enfant? Pour essayer de comprendre comment le monde du XVIIe siècle regardait le monde de la Bible. C'est le roi Salomon qui donne un festin à la reine de Saba. Et alors, il y a, oui, c'est plein d'observations à faire. C'est pas l'objet en lui-même, la tapisserie. Non, c'est ce que ça... Vous regardez un fauteuil, ben ça vous dit beaucoup sur la manière dont les gens, au 1770, s'asseyaient, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur corps, etc.
Bien sûr. Vous plongez dans les souvenirs visuels de cette première époque. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est apaisant ou au contraire une source de nostalgie?
Oh, pas du tout. J'ai aucune nostalgie. C'est curieux. Mmh. Je me suis souvent demandé, est-ce que... aucune nostalgie. Je me disais, c'est drôle parce qu'en fait, dans la vie, vous parliez de défis, etc. Dans la vie, les événements les plus importants qui se passent ne relèvent pas de votre liberté. La naissance, la mort, même l'amour.
Ah bon ?
Ben non, vous tombez amoureux, vous ne choisissez pas, ça vous tombe dessus.
Pim.
Ouais.
Et ça fait mal.
Non, alors là vraiment. Non, c'est très intéressant de voir que les événements les plus importants de votre vie, bon, l'accident que j'ai eu.
Vous dites l'accident.
Oui,
c'est un choix.
C'est pour ne pas embêter les gens. Le crime que j'ai eu, etc. Tout ça ne dépend pas de votre volonté. Et les gens me disent, mais tu aurais pu faire attention, c'est quand même.
C'est pas banal ça.
Non, mais. Après, j'ai passé, je ne sais pas combien de mois, en pleine guerre du Vietnam, il ne m'est rien arrivé. Je sors de chez moi au printemps à Washington Square, en plein centre de New York. Il m'arrive ça. Donc non. On ne contrôle pas.
Est-ce que vous avez cette espèce de sagesse un peu orientale consistant à dire « c'était écrit » au fond ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout, c'est pas votre genre.
Alors je vais vous dire, j'ai aucune idée. Il y a vraiment... ce dont je suis sûr, c'est pour ça. Il y a quelqu'un, c'est tiré de Nietzsche en fait, qui a écrit « Le contraire de la vérité, ce n'est pas le mensonge, c'est la certitude. »
C'est ça, Nietzsche, oui.
Oui.
Ouais, très bien.
Eh bien, oh, c'est formidable. Eh bien, je suis tout à fait là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, le mystère est très important. Voilà.
Vous aimez la musique, on en a déjà parlé une fois ou deux, et vous avez eu envie d'écouter Tchaïkovski. Je suis confus, je n'ai pas trouvé l'interprétation de Richter, ne m'en veuillez pas trop. Mais vous connaissez aussi, vous êtes vraiment un expert, celle de Gilels.
Très bien.
Sous la direction de Laurine Mazel.
Ah oui.
Tchaïkovski, ça vous va?
Très bien.
Allez.
Très bien.
Nous recevons aujourd'hui Hugues de Montalembert, qui fut un peintre, un cinéaste, parfois même un photographe, avant qu'une agression scandaleuse, affreuse, le prive de la vue, et qui a une autre vie, qui est maintenant aussi un auteur et un pianiste très amateur, vous le disiez. Mais en revanche, vous êtes un vrai connaisseur. Vous disiez Richter et Gilels, pas du tout la même interprétation de ce morceau, par exemple.
Ah non, mais tous les deux avec qualité absolument extraordinaire. Je suis émerveillé par la fluidité du jeu de Gilels. Et chez Richter, c'est que tout simplement, il pèse aussi lourd que tout l'orchestre. C'est extraordinaire. Il faut entendre ça. Les deux interprétations sont merveilleuses.
J'allais vous demander, on a parlé un peu de votre vie quotidienne, qui est maintenant beaucoup rythmée par l'écriture, c'est un plaisir, et aussi c'est votre vie, et puis par les choses simples, écouter de la musique, en jouer. Mais par exemple, vos rêves, physiquement la nuit, vos rêves, à quoi ressemblent-ils ?
Alors c'est intéressant, parce que la question... Ils sont ou très intéressants ou sans intérêt, etc. L'autre, il y a trois nuits, je crois, j'ai rêvé, j'ai connu l'architecte de l'opéra de Sydney, qui est un Danois qui s'appelle Jon Utzon. Et on a beaucoup parlé, il m'a fait voir les maquettes, tout son travail, c'est passionnant, absolument passionnant. Et j'ai rêvé de l'inauguration de l'opéra de Sydney, mais alors que toute cette opéra, la chose de Jon qui est formidable, c'est les conques qui font la toiture de l'opéra. Il n'y avait pas de toiture dans cette inauguration. Et il s'est mis à pleuvoir. Mais Jon avait prévu une grande bâche dans laquelle il y avait des trous pour chaque tête du public avec une capuche qui avait la forme, évidemment, d'une conque. C'est des rêves, c'est inouï. Moi, je les note parce quand ils valent le coup. Je les note, c'est très intéressant. Par contre, votre question est très intéressante parce que je suis allé à l'INJA. J'ai demandé à la directrice de me donner 5 jeunes élèves aveugles entre 15 et 17 ans, aveugles de naissance. Et je leur ai posé la question. Est-ce que tu rêves ? Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves ?
Ah oui ?
D'accord. Et alors, j'ai découvert une chose très intéressante, c'est que les aveugles de naissance n'ont pas de langue. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de prendre la langue des gens qui voient. Ainsi, il me dit hier...
Ah, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de référence. Quoi.
Non, de langue.
Mais que voulez-vous dire ?
De vocabulaire.
Ah bon ?
Ben non, puisque qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il rêve ? Est-ce que c'est une image ? Non. C'est quoi ? Ben vous ne le savez pas. Il n'y a pas de mots, on ne sait
oui,
pas.
Parce qu'il... Oui.
Vous comprenez ce que
bien
je veux
sûr,
dire ?
Parce qu'ils n'ont pas eu la référence que vous avez eue pendant 35 ans, ils ne savent pas ce que c'est quand on parle d'un objet.
Ils n'ont pas de banque.
Bien sûr.
De banque d'images comme moi.
Parfois dans les rêves, on se met en scène, on se voit dans les rêves. Est-ce que quand vous voyez dans vos rêves, est-ce que c'est celui d'avant ou c'est celui qui est actuel ? C'est le Hugues de Montalembert d'avant ?
Non, c'est celui de maintenant. Et la chose intéressante, c'est qu'au début, mes rêves, c'était quelquefois... mon cerveau se mettait à rêver, par exemple, de champs de blé qui ondulaient au vent avec des coquelicots. Et c'était uniquement pour la joie de voir quelque chose de beau.
C'est parfait.
Hein ? C'est tout. Il n'y avait pas de signification.
Un dernier morceau, ça c'est moi. Vous voyez, j'abuse. Parce que j'ai décidé moi-même de faire diffuser un morceau que vous n'avez pas choisi.
Non. Oui.
Et ce morceau, je l'ai découvert avant-hier. Donc pour ça, c'est un enthousiasme du moment. Je suis peut-être un peu béotien. Ça s'appelle L'Ave Maria de Caccini. Ça vous parle ?
Ça me dit quelque chose.
Eh bien, oui. Figurez-vous que c'est en réalité une espèce d'escroquerie parce qu'on a cru qu'on entend que c'était un Ave Maria de Caccini du 16e siècle. En réalité, ça a été fait par un soviétique en 70 qui s'appelait Vavilov.
Ah, oui.
Et c'est bien dans l'esprit. Je trouve que c'est assez beau. Écoutez ça.
Ouais.
Voilà, l'Ave Maria de Caccini, qui a été donc fait par un russe en 70, Vavilov. C'est assez
alors,
beau, non?
Ça vous dit une chose, c'est que ces Russes sont indécrottables. Car après 50 ans de communisme, voilà ce qu'ils nous proposent.
Mais c'est quand même assez, au premier degré, c'est assez beau, non?
Mais non, mais c'est magnifique. Mais quand je dis indécrottable, c'est un compliment.
Bien sûr. Dites-moi, évidemment. Il nous reste très peu de temps, et après, écoutez, Ave Maria, c'est une question assez vitale. Êtes-vous croyant?
Alors, c'est intéressant. Je suis en Chine, je fais une conférence, il y a à peu près 300 personnes, un public, et tout d'un coup, au milieu du public, à la fin de la conférence, un Chinois se lève et me pose cette question. Est-ce que vous croyez en Dieu? Et je dis non, ça vraiment, c'est pas un sujet que j'ai envie de discuter, c'est pas avec 300 personnes, etc. Et je dis, il faut que je trouve une réponse très rapide et chinoise. Et j'ai dit, si je ne sais pas que Dieu existe, Dieu sait que j'existe. Eh bien, je vous réponds la même chose. C'est-à-dire, pour moi, je crois au mystère. Oui. Certitude, mensonge.
D'accord.
Vous comprenez?
Pas complètement.
Eh bien, ça veut dire que, par exemple, je suis fermé à la théologie.
Au dogme.
Oh, au dogme encore plus, mais à la théologie.
Vous ne priez pas, par exemple?
Mais tout le temps.
Ah bon?
Mais l'amour, la plus belle prière, c'est d'aimer la vie.
Bien sûr.
Oui.
Mais vous n'avez pas besoin du levier
non.
qu'est une religion, quelle qu'elle soit.
Non. D'accord. Non, j'ai vécu dans beaucoup de religions. Elles me sont toutes sympathiques, mais je n'ai pas... Je n'aime pas les certitudes. Surtout dans ce domaine où, en fait, la théologie, pour moi, c'est... J'ai posé la question à un scientifique, membre de l'Académie des sciences, ici, un très grand physicien, qui est croyant, très engagé, et je lui dis, mais pour toi, la théologie? Et il y a eu un silence, il m'a dit, la théologie, c'est une pyramide qui repose sur sa pointe. Qui est une belle réponse.
Hugues de Montalembert, une fois que ce livre sera fini, il est en fin d'écriture, là, votre livre?
Ah oui, tout à fait, oui.
Redonnons le titre, parce qu'il est quand même pas banal.
Mais je ne sais pas si je le garderai, mais pour l'instant, c'est... qu'est-ce que j'ai dit? Le passé... Seul le passé est imprévisible.
Oui, on peut envisager plus simple, peut-être, non?
C'est possible.
Vous allez y réfléchir.
Non, je ne suis pas... Ça m'est égal.
Très bien. Vous êtes dessus en ce moment. Vous relisez, vous corrigez.
C'est que, je me rappelle, c'était... À perte de vue. Et Robert Laffont m'avait dit...
À perte de vue, oui.
À perte de vue. Oh, Hugues, est-ce bien nécessaire?
Donc, vous êtes en train de le finir? Ou il est prêt, là?
Je suis sur le dernier chapitre.
Parfait. Et une fois que c'est fait, vous avez des projets à long terme? Vous êtes l'homme de l'instant. Vous savez ce que vous ferez dans 2 ans, dans 3 ans?
Non, mais la ville décide pour moi. Hein. Ça, c'est vraiment... Alors là, j'aime beaucoup les gens qui ont des programmes. Et en fait, j'ai vérifié. En général, leurs programmes ne se réalisent pas.
Jamais.
Non.
Très bien. Hugues de Montalembert, merci infiniment d'avoir passé ce long moment avec nous. C'était très intéressant à tous égards.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup. Et je vous renvoie vraiment à ce film Black Sun. Il est formidable sur YouTube, qui raconte le truchement de votre voix, qui raconte ce qui s'est passé. Et en termes de littérature, c'est La Lumière Assassinée qu'on peut trouver encore assez actuellement.
La Lumière Assassinée et À Perte de Vue. Et un dernier qui s'appelle Regardez au-delà.
Parfait. Et on va maintenant, pardonnez-moi, il y a un petit importun qui fait du bruit là-bas. On va se séparer avec quelques secondes de ce générique que j'adore, Les Aventuriers, un film de Robert Enrico avec Lino Ventura, Alain Delon, c'était merveilleux. On se retrouve dans 15 jours. Il y aura que de la musique dans l'émission, c'est pour vous, tiens, si vous êtes désœuvré. Pendant les émissions, les meilleurs morceaux diffusés dans cette émission depuis le mois d'octobre. Merci, à très bientôt sur Radio Courtoisie. Merci.
Vous venez d'entendre Les Neiges du Kilimandjaro, dirigé par Marc Bessou, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 27 juin 2026 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Et je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.